What the fuck ? Quand les étudiants
s'emparent du micro.
Le nouveau semestre démarre doucement en même temps que la nouvelle année et l'une de vos résolutions est peut-être d'apprendre une nouvelle langue ou de vous y remettre. Mais alors par où commencer et comment s'y prendre ? C'est ce que nous allons essayer de découvrir aujourd'hui dans What the Fac en nous intéressant à l'apprentissage des langues étrangères et à la Maison des langues de l'UPJV. Nous accueillons pour cela Françoise Lebévin. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes enseignante d'anglais, directrice adjointe de la Maison des langues et co-responsable du Centre de ressources en langue des Minimes. On peut donc dire que vous vous y connaissez bien dans le domaine de l'apprentissage des langues et vous allez nous aider à y voir plus clair. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez expliquer, pour celles et ceux qui ne connaissent pas déjà, ce qu'est la Maison des langues et quels sont les services qu'elle propose ?
Bien sûr. Alors, la Maison des langues, c'est un service commun de l'Université Picardie-Jules Verne, donc qui est accessible gratuitement à tous les étudiants et personnels de l'université. Et donc, c'est pour vocation à promouvoir les langues, à proposer des activités, des ateliers, des ressources, en plus des heures maquettes des étudiants. On a aussi pour mission de proposer une réflexion autour des langues, de leur apprentissage, essayer de travailler à l'harmonisation aussi de ces enseignements au sein des différentes composantes et des différentes antennes de l'UPJV pour vraiment proposer un enseignement commun pour tous les étudiants. Ensuite, pour les étudiants concrètement, quel type d'activité on propose ? Alors, par exemple, on a une plateforme en ligne, Conspire, depuis quelques années, qui permet de travailler l'anglais sur des plateaux d'activités de différents niveaux. Nous proposons aussi des cours en présentiel par niveau, en anglais, espagnol, catalan, arabe, italien. On a aussi des ateliers de conversation avec des étudiants natifs qui permettent de pratiquer de manière authentique et puis en même temps de découvrir un petit peu des cultures et des personnes aussi. On a des activités plus ludiques, culturelles, on a des visites guidées par exemple avec Amiens Métropole. Et puis deux centres de langue, un à la Citadelle, l'autre au Minime, au Pôle Sciences, qui permettent aux étudiants, qui proposent aux étudiants un accès à des ressources, une aide personnalisée par rapport à leurs besoins, répondre à leurs questions, puisqu'il y a toujours des enseignants ou des moniteurs qui sont là-bas pour les accueillir. En fait, le but de la Maison des langues, en gros, ça va être de proposer une exposition maximum aux langues, puisqu'on sait que voilà, il y a des heures de langue dans les maquettes, mais pas forcément énormément. Donc, on est là pour rajouter une plus-value sur tout ça. Et puis, pour les enseignants aussi, pour les enseignants de langue, la Maison des langues propose du coup une sorte d'entité fédératrice qui va proposer une aide, un partage de ressources aux besoins, des formations en pédagogie, en usage d'outils numériques, etc.
Et du coup, pour venir au cours de langue, par exemple, quelles sont les langues qui vont être les plus prisées par les étudiants et les étudiantes et pourquoi selon vous ?
Alors clairement, c'est l'anglais qui est la langue la plus demandée. Alors pourquoi ? Déjà parce que c'est la langue qui est enseignée au sein des cursus, donc les étudiants veulent s'entraîner sur cette langue puisque c'est sur cette langue qu'ils vont être évalués au sein de leur diplôme. Mis à part quelques exceptions, dans tous les diplômes, c'est vraiment l'anglais qui est comme langue vivante. Après, il y a aussi l'idée que l'anglais aujourd'hui, elle est vraiment considérée comme langue de mondialisation. Après, je pense pas que ça implique forcément une maîtrise parfaite, mais c'est une langue internationale. Du coup, elle est autant utilisée par des natifs que des non-natifs, et du coup, ça va avoir tendance à la simplifier. On va avoir tendance à accepter les erreurs qui ne bloquent pas le sens pour atteindre cet anglais international. Donc, on a beaucoup d'étudiants qui veulent apprendre cette langue pour ouverture professionnelle à l'international, mais aussi pour rien qu'en compétences personnelles, pour pouvoir voyager, pour pouvoir rencontrer d'autres personnes et partager. Il y a l'espagnol aussi qui est pas mal demandé, puisque voilà, l'espagnol, surtout dans le système éducatif français, est souvent pris comme deuxième langue vivante. Donc l'espagnol est parfois pas mal demandé. Et puis depuis quelques années, on a l'arabe également qui est de plus en plus sollicité. Et donc on a mis en place des cours depuis l'année dernière qui fonctionnent très très bien. Les cours sont rapidement pleins et pris d'assaut. Donc on est aussi dans l'optique de réfléchir à voir comment on pourrait essayer de pouvoir proposer encore un petit peu plus de place ou plus de créneaux sur ces cours d'arabe.
Il y a une nouveauté cette année, c'est que les étudiants et les étudiantes de L3 doivent passer un test d'anglais qui est compris désormais dans leur cursus. Comment est-ce que ça va se passer tout ça pour se mettre en place ? Et comment est-ce que la Maison des langues peut accompagner celles et ceux qui voudraient s'assurer un bon résultat ?
Alors, en effet, à partir de, cette année, tous les étudiants qui sont inscrits en troisième année, en L3, licence pro, DUT2 également, ils vont devoir passer une certification durant cette troisième année pour pouvoir valider leur diplôme. Après plusieurs mois de recherche, on va dire de travail réflexif autour de cette certification, on a essayé de trouver celle qui nous semblait le plus pertinente en termes de pédagogie et de mise en place également. Et donc l'université a choisi le test Alticia, qui propose en fait une évaluation d'anglais généraliste avec compréhension orale, compréhension de l'écrit et production de l'écrit courte. En fait, il s'agit d'un test qui est informatisé sur ordinateur, qui est adaptatif. Ça veut dire que plus on répond bien, en gros, plus le niveau des questions va s'élever. Mais si on répond faux, le niveau va s'abaisser. En fait, pour vraiment avoir un affinage très précis et avoir le niveau final dans les trois compétences et un résultat sur un niveau général également. Et résultat aussi qui est immédiat à la fin du test. Et qui est un test qui n'est pas très long non plus, puisqu'il dure à peu près une quarantaine de minutes. On sait pertinemment que cette certification, elle peut être source de stress pour certains étudiants. Donc c'est pour ça que voilà, on voudrait le rappeler. C'est la passation qui influe sur la diplomation et c'est pas le résultat. C'est-à-dire que si vous passez le test, dans tous les cas, ça veut dire que ça ne va pas bloquer votre diplôme. Autant essayer d'obtenir le meilleur niveau, puisque cette certification et cette attestation va pouvoir vous aider peut-être à promouvoir un dossier pour un projet professionnel ou une candidature en master, mais en aucun cas le résultat ne va influer ni la moyenne ni la diplomation. Et donc la question va se passer durant le semestre. Ça, c'est une date qui va être choisie par la composante. C'est vraiment la composante qui va mettre ça en place. Et donc c'est un test qui est donc informatisé sur la plateforme Moodle. Et pour tout ce qui est, on va dire, entraînement, on est vraiment sur de l'anglais généraliste. Peut-être que certains étudiants ont déjà passé le test SELF ou le test diagnostique de la Maison des Langues. Eh ben, c'est quelque chose comme ça, en fait, où on est sur de la compréhension orale, compréhension de l'écrit, production de l'écrit, du vocabulaire, de la grammaire, qui est vraiment dans le quotidien. Donc, leurs cours d'anglais sont des entraînements naturels. Après, ils peuvent venir également travailler et utiliser les différentes ressources de la Maison des Langues pour s'entraîner. Mais voilà, il n'y a pas besoin de bachotage particulier. On est vraiment sur une évaluation de niveau d'anglais général de communication.
Et du coup, ça nous permet aussi d'aborder une autre question importante. Comment est-ce qu'on fait en tant que grand débutant ou grande débutante pour se lancer dans l'apprentissage d'une langue quand on n'y connaît rien et par quoi commencer ?
Alors, débuter une langue en tant que grand débutant, vrai débutant, c'est clairement, c'est pas simple. Alors déjà, il faut faire attention à cette définition de grand débutant, puisqu'il y a, par exemple, pour l'anglais, on a de nombreux étudiants qui arrivent et qui nous disent « Oh là là, non mais moi je suis débutant, j'ai pas de niveau, c'est la catastrophe ». Il faut savoir qu'un grand débutant, c'est quelqu'un qui n'a jamais étudié la langue. Ça veut dire qu'en anglais, un grand débutant, c'est quelqu'un qui ne saura pas dire, qui ne saura pas comment je vais dire bonjour, comment je vais dire au revoir. Voilà, il n'a vraiment aucune idée de la langue. Donc, déjà, il y a très peu de grands débutants pour l'anglais, par exemple, puisque dans notre système éducatif, la grande majorité des étudiants ont pu faire de l'anglais déjà dans le secondaire, voire même dans le primaire. Donc, on serait plutôt sur des faux débutants. Après, on peut être grand débutant dans une autre langue aussi. Et pour ces étudiants-là, la recommandation, c'est vraiment un cours en présentiel, on va dire adapté à leur niveau, en petits groupes, avec un enseignant qui pourra vraiment guider et accompagner au maximum les étudiants, s'adapter aux besoins. Il ne faut pas oublier qu'une langue, c'est vraiment de l'interaction. Donc, on ne peut pas seulement apprendre en observant, il va falloir produire aussi, d'où la nécessité d'activités en interaction avec d'autres apprenants ou bien avec un enseignant. Donc, il est tout à fait possible d'essayer de trouver des petits cours en ligne, de regarder des vidéos, mais à un moment, il va falloir passer aussi cette étape d'interaction, de production, de manipulation de la langue et pas seulement d'exposition et d'absorption de tout ce qu'on peut voir.
Et donc, quand on a commencé à apprendre sa langue, on progresse doucement, mais souvent, on arrive parfois à une sorte de plateau, à un moment où on a du mal à passer au niveau supérieur, généralement entre le niveau intermédiaire et le niveau avancé. Comment on fait pour débloquer son apprentissage quand on arrive à ce palier-là ?
En effet, souvent ce plateau, soit entre B1 et B2, donc le niveau intermédiaire, le niveau seuil et le niveau autonome, ou alors bien entre le B2 et le C1. Déjà, il faut savoir que pour passer d'un niveau à un autre, on parle à peu près entre 300 et 400 heures d'exposition à la langue. Donc, c'est énorme. Il ne faut pas se dire, hop, je vais bosser un ou deux mois et puis je vais pouvoir monter 3-4 niveaux. C'est vraiment, c'est quelque chose aussi qui se fait dans la longueur et dans beaucoup de manipulations. Et je reviens sur l'idée de l'apprentissage comme utilisation active d'une langue. Il faut vraiment pratiquer, il faut élargir son exposition, il faut pouvoir rencontrer la langue dans diverses situations, différents milieux, avec différentes personnes. Il faut en gros sortir d'un peu de sa zone de confort, découvrir toujours plus. Et surtout, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'une langue, c'est lié à une ou voire même des cultures qui sont également en constante évolution. Donc quand on arrive à ces paliers, bah faut se dire peut-être que là voilà, j'ai découvert ce que je pouvais découvrir dans ce type de situation, à moi d'essayer de me mettre dans d'autres situations plus larges pour découvrir d'autres manipulations de cette langue, d'autres champs lexicaux, d'autres personnes qui vont interpréter autrement. C'est voilà. Il y a mille et une manières d'apprendre une langue de toute manière et de la découvrir. Et donc, il faut essayer d'élargir un maximum son panel de rencontres avec ces langues cultures pour essayer de dépasser ces paliers et surtout beaucoup pratiquer. Il faut, au bout d'un certain moment, sur les grands niveaux, pour passer du B2 au C1, il va falloir essayer vraiment de réussir à manipuler la langue et de savoir l'utiliser comme un outil et de se l'approprier pour pouvoir jouer avec. On est sur des langues voilà qui sont là pour nous permettre de communiquer, mais qui sont voilà nos outils pour dire ce que nous on a envie de dire. Donc savoir vraiment se l'approprier, quitte à voilà jouer avec les mots, etc., pour essayer de débloquer de ce plateau, mais vraiment élargir les horizons.
Et du coup, est-ce que par exemple l'immersion, enfin sans forcément vivre dans le pays en question, mais en s'entourant de la langue qu'on apprend, est-ce que ça peut être considéré comme une méthode efficace et utile?
Oui, bah, l'immersion, ça permet en fait de, en gros, si je schématise, de faire comprendre à notre petit cerveau, enfin petit ou pas, que voilà, la langue, c'est un objet qu'il va falloir reconnaître, décrypter, et avec lequel il va falloir essayer de travailler, et si possible, sans passer dans sa langue maternelle. L'avantage de l'immersion, c'est qu'on est tellement immergé dans un monde, dans une langue particulière, avec une culture particulière, que notre cerveau, il va vraiment s'imprégner beaucoup plus facilement. En termes de quantité, de qualité et de temps, et il va pouvoir arrêter le réflexe peut-être de la langue maternelle, mais vraiment pouvoir pleinement s'ouvrir à cette nouvelle langue. Mais l'immersion, c'est pas seulement juste, j'allais dire, de l'exposition, ça va être aussi tout ce qui est rattaché à la langue et à la culture, dont j'en ai déjà parlé, mais il y a aussi les codes sociaux, les savoir-être. Voilà, c'est pas que de l'exposition, c'est de la production. On se retrouve dans une situation immersive. Et si on arrive, voilà, à se retrouver dans une situation immersive qui va permettre de recouper tout ça, de permettre d'avoir une exposition à la langue, à la culture, aux codes sociaux, aux différents savoir-être, mais aussi beaucoup de production et de manipulation avec cette langue-culture. Alors oui, là, dans ce cas-là, ce sera une méthode efficace et utile. Donc ça veut dire que oui, si on arrive à trouver une situation où on arrive à voir tout ça, même sans quitter son propre pays, c'est tout à fait possible, oui.
Et enfin, j'aimerais insister sur le fait qu'il n'est pas forcément nécessaire de dépenser beaucoup d'argent, voire même pas du tout, pour se lancer dans l'apprentissage d'une langue. On peut trouver énormément de ressources gratuites, au CRL bien sûr, on en a parlé, à la BU ou dans les bibliothèques de la ville, mais aussi en ligne. Est-ce que vous pourriez nous conseiller quelques bonnes ressources en ligne concernant l'anglais, puisque c'est votre domaine ?
Alors, en effet, déjà en tant qu'étudiant, tous les étudiants ont un accès gratuit à toutes nos ressources et je pense qu'il faut en profiter. On a, à la Maison des Langues, on reçoit parfois des appels d'anciens étudiants ou voilà de personnes qui sont déjà sur le marché de l'emploi et qui voudraient se former. Et voilà, ils se disent, bah oui, maintenant je vois les prix de tout ça et je me dis que j'aurais dû en profiter avant. Donc voilà, il faut se dire que oui, on sait que c'est en plus hein, de leurs études, ça prend du temps, mais voilà, c'est vraiment une opportunité extraordinaire. D'avoir accès à tout ça et de manière gratuite et de manière assez amplifiée. Ensuite, il faut savoir qu'il y a également beaucoup d'Erasmus hein, qui sont sur les différents campus de l'université et qui ne souhaitent qu'une chose, c'est rencontrer des francophones, rencontrer des natifs, partager leur culture avec eux, pouvoir papoter. Je me permets de mentionner par exemple l'association ESN hein, qui propose pas mal d'activités pour partager des bons moments avec les étudiants Erasmus, des cafés des langues, des soirées jeux, etc. Donc voilà, ça permet de faire des langues, des cultures de manière gratuite. Après, concernant toutes les ressources en ligne, Bien sûr, là, actuellement, on le voit, hein, même dans nos centres de langue, des étudiants qui vont utiliser des plateformes de visionnage de films ou séries célèbres en VO. Donc, c'est assez sympa, mais c'est pas forcément gratuit, bien sûr. Moi, il y a deux chaînes que je recommande qui sont sur YouTube pour les étudiants, que je trouve assez sympa. Alors, on peut trouver des courts tutos, des vidéos explicatives, etc., ou même des vidéos, on va dire, d'enseignement des langues. Par rapport à tout ce qui est anglais, en particulier, puisque voilà, c'est mon domaine, les deux chaînes que j'aime bien recommander, ce sont les chaînes TED Talks qui proposent des vidéos de personnes qui vont sur scène et qui vont présenter un projet, une idée, sur tout et n'importe quoi, c'est assez varié. Il y a aussi la chaîne qui s'appelle, alors c'est en allemand, enfin, les vidéos sont en anglais, mais le nom est en allemand, c'est Kurzgesagt, qui, pareil, va proposer des vidéos pour vulgariser des notions ou des thématiques variées. Donc, il y a différents niveaux, il y a différentes longueurs. Et voilà, ça permet aussi de s'ouvrir à d'autres choses, d'amplifier sa culture générale tout en écoutant des langues. Donc, c'est plutôt sympa.
Je pense que vous seriez d'accord pour dire que le plus important, ça reste quand même de s'amuser et de prendre du plaisir dans l'apprentissage des langues.
Ah bah, pour moi, la notion de plaisir est vraiment inhérente à un apprentissage sain et efficace. On apprend tellement plus et tellement mieux quand on aime ce que l'on fait. Donc pour moi, voilà, la notion de plaisir est vraiment importante. Après, voilà, je pense que c'est très personnel. Chacun doit trouver sa petite entrée dans les langues. Voilà, parce que se dire, bah, j'apprends cette langue parce que j'en ai besoin, et même si j'ai pas envie et ça me plaît pas, même si c'est inconscient, on va être assez réfractaire, on va bien moins apprendre. Alors que voilà, se trouver sa petite motivation. Alors chacun peut avoir la sienne, hein. Ça peut être, bah, moi j'ai envie de voyager, j'ai envie de découvrir le monde. Ou alors, bah, non, bah, moi, en projet professionnel, j'ai un peu une visée internationale, donc je sais que c'est quelque chose qui va pouvoir m'aider. Ou alors ça peut être, ouais, j'en ai un peu marre que tous mes potes ils me spoilent ma série préférée parce qu'ils arrivent à la regarder en VO et pas moi. Voilà, chacun va trouver sa petite entrée, mais ouais, la notion de plaisir, de motivation personnelle est vraiment importante. Et c'est pour ça qu'à la Maison des Langues, on essaye vraiment de proposer des choses variées, mais toujours, on sait que c'est en plus des cours, hein, et que les étudiants, ils ont déjà pas mal à faire. Donc, on essaye de trouver des choses variées, mais avec cette petite, ce petit côté ludique, culturel en plus, parce que voilà, autant, quitte à apprendre quelque chose, quitte à passer du temps dessus, autant se faire plaisir.
Exactement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à mes questions. Je vous remercie également pour tous vos conseils.
Bah merci à vous et puis à très bientôt, soit dans les centres de langue, soit dans les cours.
Je rappelle enfin que les CRL de la Citadelle et des Minimes sont de nouveau ouverts. Les équipes des CRL vous attendent avec impatience. Elles préparent quelques nouveautés pour vous aider davantage. Je rappelle aussi que les cours de langue ont commencé la semaine du 24 janvier avec des inscriptions à faire directement sur l'ENT. On continue de notre côté avec des idées de sorties culturelles sur Amiens et totalement gratuites. Pour le mois de février qui arrive, on vous propose un atelier philo organisé par les bibliothèques de la ville en partenariat avec Conatus, l'association des étudiants et des étudiantes de philosophie du PJV. L'atelier est destiné aux 15-18 ans et aura lieu le 5 février à 11h à la bibliothèque Louis-Aragon. L'inscription est à faire auprès des bibliothécaires au 03 22 97 10 16. De son côté, la bibliothèque Jacques Prévert organise des rendez-vous mensuels tricot. La première séance aura lieu le 23 février à 10h. La réservation est à faire au 03 22 97 12 37. Enfin, il vous reste quelques jours encore pour vous rendre à l'exposition intitulée « Les enfants de la résistance » à la bibliothèque Louis-Aragon, en place jusqu'au 2 février. Pour finir, côté lecture, nous vous proposons le manga Moriarty, écrit par Ryusuke Takeuchi et illustré par Hikaru Miyoshi aux éditions Kana. On retrouve les aventures du célèbre Sherlock Holmes dans une nouvelle adaptation de l'œuvre d'Arthur Conan Doyle, mais nous suivons cette fois son ennemi juré, le professeur James Moriarty, aussi connu comme le prince du crime. Les 11 premiers tomes du manga sont disponibles dès maintenant dans le réseau des bibliothèques de la ville d'Amiens. Merci de nous avoir écoutés, c'était What the Fuck sur Radio Campus Amiens.
What the Fuck ? Quand les étudiants s'emparent du micro.